Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on vous parle de PC, de console, de portable, de tout ça. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va avoir un épisode qui je pense va être relativement court, une sorte de petit point sur l'actu parce qu'il n'y a pas énormément d'infos. Mais pour m'accompagner, j'ai le retour, le retour de Dexerve, Benoît Régnier, qui nous revient après quelques mois d'absence. Comment tu vas ?
Eh ben écoute, ça va très très bien, je te remercie. L'au-delà, c'est pas mal. Hein. Moi, je conseille aux gens. Tu vois, j'avais trouvé un petit Airbnb sympa, là, pas très loin du troisième cercle. Et franchement, nickel. Hein. Moi, j'ai des photos. Nickel.
Super sympa, très bien. Écoute, c'est bien. Non, mais en fait, t'es parti loin de Paris, c'est ça ?
Et oui, bah j'ai, mais toi aussi d'ailleurs.
Oui, un petit peu.
Un peu plus violemment que moi d'ailleurs. Non, mais je rigole parce que le dernier rendez-vous jeu où j'étais venu, tu sais, on était avec Fox Monsieur.
Tout à fait.
Et on avait eu une discussion passionnée sur la fin du jeu vidéo japonais, je sais pas quoi. Et là, 99% de ton planning, c'est du jeu Jap. Et puis 2017, ça va être un peu l'année du retour. Donc,
C'est vrai. On avait eu une conversation animée, c'est vrai. Oui.
Ouais.
Bon, mais
en tout cas, ravi d'être là. Hein.
Bah, merci de revenir. On a effectivement énormément de jeux japonais dont on va discuter, et puis aussi et surtout la suite des informations sur la Switch. J'ai un petit peu mis de l'eau dans mon vin par rapport à mes jugements un peu sévères sur l'annonce et le lancement de la Switch du dernier épisode. En fait, c'était un peu thérapeutique d'arriver à la conclusion que c'était un soft launch. En fin d'émission, de la dernière émission, on était arrivé à la conclusion que c'était vraiment un soft launch. Et puis là, il y a eu quelques points positifs en plus. Donc, les choses s'améliorent un petit peu. On aura aussi d'autres news dont on va parler. Mais lançons-nous tout de suite avec ces histoires de Switch et de Nintendo en général. Et la première info qui est intéressante pour nous, particulièrement en Europe, c'est que le capitalisme fait son office. La guerre des prix a continué et finalement on se retrouve à des tarifs qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire qu'on est descendu à 299€ pour la console dans différentes boutiques, hein, chez Amazon, à la Fnac, chez Cdiscount. Je crois que c'est Cdiscount qui a tiré les prix vraiment jusqu'à 299. On a une promo chez Amazon à 350 avec Zelda, à la Fnac on a des réductions si on prend des cartes d'abonnement, machin, ça devient des tarifs intéressants. Il y a que Micromania qui fait de la résistance, il reste à 329, je sais pas s'ils vont pouvoir rester à 329 jusqu'à la sortie de la console. Pour le prix, oui, tu crois ?
Oh bah, les connaissants, et pour y avoir travaillé des années, ils vont pas bouger, ils vont se cacher en fait derrière leur politique de rachat. Comme d'habitude, pour faire en fait des boosts au prix de reprise des jeux et des consoles. Ils ont déjà annoncé en fait que tu pouvais avoir ta console pour 129 balles si tu revendais ta PS4 que t'as acheté il y a 2 mois, puisque c'est le modèle Slim. Mais en général, GameStop et Micromania, ils fonctionnent comme ça.
Mmh. Oui, ce qui peut d'ailleurs être une option intéressante aussi pour certains, c'est si vous voulez revendre votre Wii U et votre 3DS, puisque la Switch va remplacer les deux, vous pouvez l'avoir à un prix intéressant, j'imagine.
Ah non, la 3DS pour l'instant, elle est tout sauf enterrée. Hein.
Non, bien sûr, mais je veux dire, dans le principe, tu peux jouer en transportable avec la Switch aussi, donc peut-être que tu peux dire j'ai plus besoin de ma 3DS. Ça serait une grave erreur, évidemment, mais c'est possible. Mais oui, effectivement, le fait de revendre une console peut amener la Switch à un tarif intéressant si vous n'en avez plus trop l'utilité. Bon, voilà. C'est en tout cas. Pour moi, c'est vrai que c'est symbolique de passer de 329 à 299, c'est une question de quelques dizaines d'euros, ça compte un petit peu, mais c'est surtout symbolique. D'une manière générale, toi, parce que c'est sûr que la Switch, c'est le sujet du moment, tout le monde donne son avis l'intérêt ou la durée de vie, enfin la durée de vie, pardon, l'intérêt de la console et puis l'attractivité commerciale de la console au lancement. Toi, Benoît, t'as une opinion sur la chose ?
Ah bah oui bien sûr, comme un peu tout le monde, c'est vrai que alors je suis pas particulièrement sévère dans la mesure où ça me désintéresse pas mal, je m'en fous un peu en fait, donc je suis pas aussi virulent que ce que je peux l'être sur d'autres sujets, mais moi par contre je suis juste en fait, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, très déçu du manque d'ambition de Nintendo en fait. Toi qui es un utilisateur Apple convaincu depuis des années, t'as dû trouver ça ouf qu'on te parle de online payant mais que ça marche via une app, que tu puisses pas conserver tes produits des maths que t'avais acheté sur le store alors que c'est le même compte.
Alors vois, ça c'est pas confirmé encore, hein. Ouais, c'est pas encore confirmé. Mais oui, c'est vrai.
Mais
que ça
tu vois ce que je veux dire, c'est du coup, j'avais trouvé un truc en fait assez étrange avec la présentation. C'est qu'ils ont fait exactement l'inverse de ce qu'ils avaient fait avec la Wii U, c'est-à-dire que là, ils nous ont bien présenté le matériel. Au niveau hardware, on sait ce que c'est, il n'y a aucun souci. Par contre, comme on n'est plus à une époque où le hardware, c'est si important que ça, dans une console de jeu, que c'est plutôt les services, ils n'ont absolument pas abordé tous ces sujets-là. Et du coup, bah. Tu vois, quid d'une utilisation vite fait tablette, pourquoi ils n'ont pas pensé, ils ont un USB-C qui est quand même un port ultra récent pour Nintendo, c'est surprenant, ils n'ont même pas pensé à mettre la possibilité de mettre une carte 4G éventuellement ou un truc comme ça, tu vois, c'est... Pour moi, c'est ça reste un mystère cette Switch. Et, je vais pas l'acheter, comme je pense pas mal de gens, je m'en fous un peu. Mais je suis content par contre effectivement de voir qu'au niveau des prix, ils essayent de retrouver une espèce de rationalité parce que tu te dis qu'à 400 balles, t'avais la console et le jeu, mais si tu voulais jouer à deux avec l'espèce de saloperie la One to Switch, il fallait que tu dépenses 450 ou 460 balles. Enfin. Je veux dire, tu rajoutais 200 euros et t'avais un Oculus Rift, quoi. C'est ça devient un peu fou. Mais écoute, j'ai vu une vidéo pas plus tard que ce matin où on voyait l'écran tactile de la console être utilisé, ce qui est la première fois qu'on le voit, il me semble, et qu'il a l'air d'être multi-touch en plus, donc ça serait pour le coup une vraie révolution chez Nintendo, parce que ça serait leur premier écran avec plus de un doigt.
Ouais. Ils te mettent plus d'un doigt, c'est vrai.
Ouais, ça, c'est clair qu'ils font plus semblant.
Mais non, par contre, sur le One to Switch, tu peux jouer avec les deux petits Joy-Con, donc t'as pas besoin d'acheter une manette en plus. Ça reste.
Oui, non, c'est vrai que c'était pas One to Switch auquel je pensais, c'était le
Arms.
Arms, ouais, le faux jeu de boxe, là. Non, mais bon, c'est vrai que c'est des jeux, tu te dis, ça aurait pu être offert avec la console si on était encore à l'époque de la Wii, quoi. Enfin, pourquoi c'est pas comme Wii Sport ? Moi, j'ai jamais compris.
Donc, même réaction qu'un petit peu tout le monde, effectivement. Je crois que sur la communication, effectivement, ils se sont concentrés sur le fait d'avoir une communication claire avec la machine. On en avait parlé. Et je pense que le fait de mettre en avant l'aspect tablette d'une éventuelle tablette, enfin tu vois, de dire on peut faire Netflix machin, on peut aussi avoir des jeux Android parce que l'architecture est un dérivé d'Android possiblement, ce sont les rumeurs qui courent en tout cas, ça aurait été, ça c'est des trucs qui peuvent peut-être arriver après, mais c'est vrai que ça a été évoqué à différents endroits. Par contre, un truc, une autre bonne nouvelle qu'on a eue, c'est la confirmation du fait qu'on aura plusieurs comptes possible sur la console et que on pourra en changeant de compte avoir des comptes d'une autre localité, c'est-à-dire qu'on pourra avoir un compte japonais, américain ou européen. Il est tout à fait possible. Alors oui, c'est un petit peu pénible, il faut changer de compte pour se connecter au store de l'autre région. C'est comme sur PlayStation, j'imagine sur Xbox. Donc on n'a pas un seul compte qui se connecte à tous les stores, mais ça c'est, je pense que ça n'était pas vraiment ce qu'on attendait de toute façon, c'était pas raisonnable comme fonctionnement. Mais on a jusqu'à 8 comptes sur console, quoi.
Tu vois, je pense même pas que ce soit possible d'un point de vue légal, parce que tu serais obligé de passer d'une monnaie à l'autre, d'une taxation à l'autre, d'une TVA à l'autre.
Et puis d'une adresse à l'autre, d'une machin.
En plus, ouais. Parce que t'es obligé de justifier ton... Enfin, tu vois, je trouve ça rigolo qu'ils communiquent là-dessus, parce que sur PlayStation ou Xbox, pour obtenir un compte typiquement japonais, parce que c'est souvent là que t'as envie d'aller quand t'es occidental, il faut que tu donnes une fausse adresse. Donc je pense qu'on doit être des millions de gens à habiter au cœur de, tu vois, de Nintendo à Kyoto, ou j'en sais rien. Enfin, moi, je sais que tous mes comptes... J'habite dans Nintendo, voilà. Je pense que c'est un petit pied-à-terre que j'ai là-bas. Je te montrerai un jour.
D'accord, très
mais,
bien.
Non, ça, c'est vrai que c'est une bonne chose. Ils ont été assez clairs sur l'ouverture et le fait qu'ils arrêtent un peu ces conneries de zoning.
Ouais, d'Origin Lock.
Maintenant, bon, c'est un pas dans la bonne direction. On reste sur une console avec une mémoire interne ridicule, avec des tarifs pour les cartes SD. Je sais pas si t'as vu, ils ont un partenariat en fait avec Ori pour faire des cartes SD brandées Nintendo qui sont vendues aux alentours de 70 balles pour 32 gigas.
Alors que 32 gigas, ça coûte 10 balles, ouais, même pas. 10
ouais,
balles,
10, 20 balles, bref. 20 balles si tu veux, tu sais, avec une vitesse un peu rapide si tu veux faire pour ton appareil photo, quoi. Mais ouais, effectivement, c'est leur gestion de la com pour l'instant est un peu nébuleuse. Comme tu dis, peut-être qu'on aura plus d'infos sur le côté tablette dans les mois à venir, mais moi, tant que justement j'ai pas des infos fiables et claires sur l'utilisation que je pourrais en avoir au-delà d'aller sur les toilettes, puisque c'est leur dernière publicité qui met ça en avant. Moi, je peux pas me décider parce que la Shield fait mieux, parce que l'iPad a un catalogue.
Ouais, mais t'as pas Zelda
ouais,
sur la Shield.
Tu l'auras ici. Je le reste. Tu vas l'avoir au bout d'un moment. Alors après, peut-être qu'il aura un modèle dégueulasse, mais.
Mais disons que moi, le truc dans l'ensemble, ça a plutôt été dans le bon sens ces deux dernières semaines. Le truc qui reste pour finir de me décoincer mon froncement de sourcils, on va dire, ça serait d'annoncer quelque chose au niveau de la boutique virtuelle. Si ils nous disent que les jeux qu'on a achetés sur Wii U, voire même sur 3DS, les jeux, vous savez, les jeux DS ou les vieux jeux, quoi, les jeux rétro, si on peut les récupérer sur la Switch parce que c'est lié à notre compte, là, ça finira de me décoincer et je dirais, ok, ça peut donner quelque chose. Rien que les jeux, même pas forcément Wii U, mais les jeux Wii. Si je peux jouer à Mario Galaxy, à Metroid machin, à tous ces trucs, si ça devient une virtuelle console en plus, bon... Ça commencera à devenir plus acceptable, quoi. Mais
bah, surtout qu'en plus, tu pourrais complètement l'imaginer. Et pourquoi ils n'ont pas communiqué là-dessus ? Je veux dire,
mais je crois que c'est pas prêt. Je crois qu'ils sont pas prêts, tout simplement.
Ouais.
Ou alors peut-être qu'ils ont l'intention de pas le faire du tout. Hein. Peut-être qu'ils vont nous demander de racheter encore une fois les jeux, ce qui serait pour le coup scandaleux. Mais
mais
je crois qu'ils sont pas prêts, tout simplement.
De toute façon, ils sont pas prêts. Regarde, leur service en ligne est prévu pour la sortie en automne. C'est quand même, et ils sortent la console en mars juste pour boucler l'année
disponible.
Fiscale.
Le service sera disponible, mais enfin bon, oui, on revient à la conclusion que c'est un soft launch.
Ouais, c'est
quoi.
Ça, c'est un vrai soft launch. Moi, la Switch pour moi, ça sera 2018 parce que t'auras 4-5 gros jeux Nintendo qui seront sortis. T'auras aucun des jeux tiers annoncés qui sera finalement sorti. Mais voilà, t'auras quand même un petit jeu sympa de chez Ubisoft ou un truc comme ça. Mais là, en l'état, si tu veux, moi j'ai ma Wii U, j'ai Zelda qui sort dessus. Alors certes, il est un peu moins joli,
mais ça te suffit.
Ça reste le même jeu, ça va me suffire largement.
Bah justement, à propos de Zelda, on a la confirmation que le doublage sera effectif en Europe, donc on aura le doublage français. La langue sera déterminée par la langue du système, par contre. Malheureusement, on pourra pas avoir, par exemple, les voix en japonais et les sous-titres en français ou en anglais ou ce que c'est. Ça, c'est un petit peu décevant. Moi, d'habitude, j'aime bien jouer avec langue originale parlée et sous-titres, éventuellement en anglais ou en français. Mais bon, visiblement, là, ça sera pas possible. C'est un petit peu décevant, effectivement. Par contre, on a eu, lors du Fire Emblem Nintendo Direct, qui était consacré donc à Fire Emblem, évidemment, la confirmation qu'il y aurait un autre jeu Fire Emblem pour Nintendo Switch en 2018. Donc, les annonces commencent à venir. C'est pas trop mal. On a aussi Fire Emblem Echoes, qui est l'équivalent du... Enfin, un remake du Fire Emblem Gaiden, qui est un vieux jeu, donc un petit peu old school, sur 3DS qui arrive en mai, assez vite. Fire Emblem Heroes qui est une sorte de mini tactical RPG sur Android et iOS. Ça sort le 2 février, donc là, dans deux jours quand l'épisode sort. Et c'est un free-to-play, c'est un modèle free-to-play plus classique pour les téléphones mobiles. On peut acheter des orbes desquels vont sortir des héros et on va espérer avoir le bon héros, machin. Et t'as mis dans les notes le Fire Emblem Warriors, donc le Musou dont on avait déjà parlé. C'est pour ça que je l'avais pas, je l'avais pas mentionné. Mais oui, il avait été confirmé en fait lors de la présentation de la Switch. Mais donc voilà, il y a plein de petits trucs. Un jeu en plus pour Switch en 2018, ça c'est une bonne chose. Le jeu qui arrive sur mobile, qui a l'air d'être une version, une mini version d'un Fire Emblem, pourquoi pas, avec une petite et une aire de jeu relativement réduite, donc c'est, je crois, 5 cases par 9 ou un truc comme ça.
Après, c'est ce qu'il faut voir, c'est que c'est basé sur le système des gachas japonais, donc il va y avoir une part d'aléatoire et de loterie violente.
C'est un free-to-play, oui, c'est sûr que...
Et ouais, mais associé au free-to-play, t'as le fait que même si tu sors ta CB ou ton compte Google Wallet ou je sais pas quoi, t'as absolument pas la garantie d'avoir ce que tu veux. C'est aussi le principe de Fire Emblem Heroes, c'est-à-dire que t'as quand même la possibilité d'acheter des trucs complètement aléatoires. Moi, je trouve ça assez foufou qui teste ça après Super Mario Run qui était vendu 5 balles.
10 balles Mario Run.
10 balles même, putain, c'est vrai, oh là là. Et tu te dis, mais enfin, vraiment, Nintendo, c'est rigolo. Ils arrivent et ils foutent les deux pieds dans le plat sur leur truc mobile. Mais bon, ils ont besoin d'un temps d'ajustement. Ouais, je pense qu'ils ont besoin d'un temps d'ajustement. Et ils ont, pour moi, vraiment, on commence à sentir les premiers effets négatifs du décès d'Iwata. C'est-à-dire que on se retrouve à la tête de Nintendo, un financier qui comprend a priori pas forcément beaucoup de choses sur ce qui se passe dans les jeux. Alors même si on a trouvé, je pense que vous aviez dû le relever pour la présentation de la Switch, son remplaçant en termes de com, tu vois, avec le gars en costard là, qui était très sympathique. Mais c'est vrai qu'au niveau des prises de décision, de la manière de penser, etc., sortir la Switch en mars alors qu'elle devrait être plutôt prête en automne avec plus de jeux, etc., aller sur mobile en prenant des modèles différents à chaque jeu au lieu d'avoir une cohérence comme pourrait le faire Nintendo d'habitude, etc., moi je trouve qu'on est vraiment dans l'ère post-Iwata, tu vois, où on commence à voir Mishima qui a son influence et qui prend des décisions qui me surprennent, quoi. Mais bon.
Moi, je suis pas d'accord parce que tu sais les reproches qu'on fait maintenant à Mishima, c'est pas Mishima d'ailleurs, c'est
Je confonds. Attends, comment
c'est
il s'appelle?
Google.
Bah oui, ouais, je suis dessus, là, t'inquiète pas. Kimishima.
Kimishima, tu vois, voilà, c'est ça. Mishima, c'est Tekken, c'est l'influence.
Ouais, tu vois, c'est parce que je jouais Tekken 7 en dessous.
Mais non, moi, je crois que tu sais, on aurait pu faire des reproches tout aussi virulents à Iwata quand la Wii U est sortie et que c'était complètement opaque et on comprenait pas du tout justement
la communication. Hein.
Oui, tout à fait. Donc, tu vois, c'est pas que tout à coup Iwata est plus là et donc ils se mettent à faire des trucs étranges. Oui. Ils ont déjà fait des trucs étranges avec la Wii.
Attends, c'était pas clair.
Ouais, et sur les jeux, moi au contraire, je trouve que c'est assez cohérent au niveau stratégique parce que ils ont sorti un jeu qui avait un attrait énorme pour tout le monde et donc évidemment je parle de Mario Run et celui-là ils ont dit pour y jouer il faut payer et basta et voilà, enfin bon bien sûr on peut essayer le premier niveau mais si vous voulez jouer vous allez payer parce qu'il y avait beaucoup de gens qui seraient intéressés. Fire Emblem qui est un jeu bien sûr connu aussi mais beaucoup plus confidentiel qu'un truc comme Mario, ils disent vous pouvez l'essayer, c'est un modèle free to play qui favorise la curiosité des gens qui n'en ont pas forcément entendu parler. Donc pour moi, le business model de ces différents jeux est complètement adapté au produit et à la réception que pourrait avoir le public. Et du coup, c'est cohérent justement. Ils vont pas se dire oui, nous on fait des jeux payants, nous on récupère de l'argent avec chaque utilisation du jeu, donc on va faire tous nos jeux à 5 ou 10 balles, quoi qu'il arrive. Ensuite, il faudra voir à quel point c'est orienté vers l'aspect free-to-play. Il y a des jeux free-to-play qui sont pas pay-to-win, il y a des jeux free-to-play qui sont complètement pay-to-win. Il faudra voir dans quelle direction ils sont allés avec Fire Emblem, mais moi ça m'inquiète un petit peu moins, je dirais. Toi t'as l'air un peu plus...
Bah, c'est que moins, le principe même de Fire Emblem, si tu veux, dans l'ADN du jeu, même il y a 10 ou 15 ans, il y avait déjà cette idée de tiens, on peut remplacer les héros, ils sont interchangeables vu qu'ils ont aucune histoire, vu qu'ils meurent, c'est fini, ils pouvaient pas trop développer l'histoire de chacun des personnages, parce que sinon c'était trop compliqué. Et quelque part, ce jeu-là a toujours eu dans son ADN effectivement le délire free-to-play. Donc oui, je suis d'accord avec toi que c'est adapté par rapport à un Mario. Maintenant, quand ils ont dit il y a quelques mois qu'ils allaient faire du Fire Emblem sur 3DS, sur mobile, pardon, j'avais peut-être le fol espoir d'imaginer que ça aurait été un vrai jeu et effectivement pas un truc free-to-play, parce que les free-to-play intéressants d'un point de vue jeu, hein, je parle pas d'un point de vue free-to-pay-to-win, machin bidule, ça je m'en fou, mais des free-to-play mobiles que j'ai trouvé intéressants sur la durée avec des mécaniques de jeu autres que liées à l'addiction, j'en ai pas encore vu, donc peut-être que je les connais. D'accord. Pas, mais c'est souvent basé là-dessus, et comme ils ont annoncé que c'était basé sur le gachapon qui est de la loterie, à mon avis, pour ouais, moi ça va rester
ça
quelque chose d'assez...
Pas très bon, ouais.
Mais bon, là on dérive.
Non, mais peut-être, hein, on verra. À vrai dire, ça, pour être parfaitement honnête, j'ai plutôt l'impression, effectivement, que de tout ce qu'ils font, c'est les héros super cool ont l'air plutôt rares, évidemment. Hein, ça serait pas surprenant que ça marche comme ça, on va dire. Mais laissons-leur le bénéfice du doute encore deux jours. Peut-être que les mécaniques de jeu seront bien Fire Emblem-esque et que tu pourras tout à fait progresser sans devoir dépenser des dizaines d'euros pour avoir le héros que tu veux ou le héros qui va bien. On verra, on verra.
Tu es mon référent d'optimisme. Hein. tu vois, quand j'essaye de me baser sur l'échelle de l'optimisme, c'est mon échelle Béja.
Je vais prendre ça comme un compliment.
Ah ben, bah, il faut.
Donc c'est l'échelle Béja de l'optimisme, très bien. Bon, bah écoutez, voilà pour la partie Nintendo. On va continuer avec d'autres news, d'autres informations. Et là, bon, il faut évoquer quand même la sortie de Resident Evil 7, que ni toi ni moi n'avons vraiment, auquel ni toi ni moi n'avons vraiment joué. Donc,
mais je l'ai précommandé
pas...
sur YouTube, hein. j'ai mis une playlist de côté pour le faire sur YouTube dans un jour quand j'aurai du temps.
C'est vrai que ça a l'air d'être l'un des jeux que tu peux faire en let's play et que tu en auras les bénéfices, quasiment tous les bénéfices, parce que vraiment c'est l'aspect pétoche qui a l'air le plus important dans le jeu. Et à vrai dire, moi j'ai testé la nouvelle démo. D'une part parce que je voulais voir si vraiment c'était... J'étais pas sûr, je me disais est-ce que je vais l'acheter ou pas. Puis je me suis dit bon, quand même, moi je suis une grosse trouillarde, quand même, un gros trouillard. Et le fait de jouer à un jeu comme ça, où le but est de te foutre la... J'avais pas fini la démo de Pity par exemple, vous vous souvenez, moi j'avais ouais. Pas pu aller au bout.
Et c'était vraiment bien la démo. Ça, bah, c'est vrai que ça donnait envie. Hein.
C'est ça. Mais moi, c'était tellement bien foutu que j'avais pas pu aller au bout. Et là, c'est un petit peu la même ambiance. Et en plus, je voulais tester la version VR. Et je vous avoue que j'ai dû m'arrêter parce que c'est hyper. Alors. La VR, ça fout un petit peu la gerbe quand même. Encore une fois, peut-être que moi, je suis un peu trop sensible, mais ils ont un système où on tourne de 30 degrés pour se diriger, de manière à ce qu'il n'y ait pas des mouvements qui vont vous donner encore plus la gerbe. Ça, c'est des à-coups de 30 degrés. Peut-être qu'on s'y habitue. Moi, j'avais quand même un petit peu la nausée. Ça m'a pas obligé à arrêter de jouer, mais j'avais quand même un petit peu la nausée au bout de quelques minutes. Donc, c'est pas super bon signe. Mais par contre, le jeu, l'ambiance est effectivement à 100%. C'est les chocottes directes, quoi. Moi, j'étais tout de suite affecté et je suis pas certain d'avoir envie de jouer. Peut-être que c'est des trucs que j'appréciais à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune. Je sais pas si c'est une question d'âge, j'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui, j'ai un truc qui me fait juste flipper du début à la fin, que ce soit en film ou en jeu, ça me fait beaucoup moins envie. Donc, je sais pas si t'es dans ce cas aussi, mais moi, je suis moins client, quoi.
Bah, je suis pas client, mais pour d'autres raisons, dans la mesure où, Alors, il y a deux choses. Il y a, à titre perso, les jeux comme ça, les amnésiales et tout ça, ça me fait pas peur, parce que du coup, c'est des jumpscares, donc c'est des mécaniques de hors-champ, de un bruit que t'as entendu, tu vas falloir te retourner, et puis tu vas re-regarder dans ton truc, et là, oh là là, un monstre. Et,
c'était, enfin, oui, il y a un petit peu de ça, bien sûr, mais l'ambiance,
disons,
enfin, dans la maison.
Je vais être plus gêné par par certaines atmosphères, des trucs glauques, etc. Mais pas au point d'avoir peur dans un jeu vidéo, parce que je reste en contrôle. Tu vois, je peux toujours faire pause, je peux toujours faire un truc. Donc ça, c'est vrai que moi, en général, je suis de marbre sur ces jeux-là. Donc, en tant que youtubeur qui crie pas devant un truc comme Resident Evil, j'ai complètement raté ma carrière, tu vois. Mais le fait est que, par contre, RE7, c'est à la fois le meilleur exemple de ce qu'on peut faire avec la VR, et aussi le pire exemple, parce que on pourra jamais faire beaucoup plus tant qu'on n'aura pas réglé des problèmes liés au déplacement, comme tu l'as dit, liés à la cinétose, etc. C'est-à-dire que regarder Resident Evil 7, c'est bien, oui, c'est effectivement le premier AAA en VR qui fonctionne. C'est probablement le dernier avant des années qui sera intéressant, quoi. Parce que moi, je suis beaucoup très, très, très dubitatif sur la VR et sur son intérêt à moyen terme dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que RE7, je me dis, bon, bah voilà, on a un truc sur rail à la première personne qui fait peur. Youpi.
Ouais. Bah tu écoute, ça peut être bien quand même. T'as pas l'air convaincu par le truc, mais ça peut être un bon jeu dans son style. Et en l'occurrence, reviews sont plutôt bonnes, quoi. C'est un bon jeu d'horreur en VR, quoi.
Ouais. Ça, j'en suis convaincu, mais ce que je voulais dire, c'était plus que ça me... la VR pour les jeux vidéo, j'y crois pas. Je vois trop les limites du truc et j'arrive pas encore à me sortir de ça. Et j'attends en gros que l'industrie me donne tort. Mais là, du coup, ils me font que confirmer que pour que Resident Evil puisse fonctionner en VR, il faut l'adapter à la première personne. Alors après, il y a autre chose, c'est que c'est un shift total de la part de Capcom, donc c'est quand même une prise de risque et tout. Donc ça, c'est il faut le saluer. Mais en gros. En dehors des rail shooters, des jeux qui font peur et des simulateurs d'avions, de voitures, de whatever où t'es assis, moi j'attends toujours qu'on me montre ce qu'on peut faire avec la VR pour de vrai, autre que ces trucs-là qui sont évidemment trop obvious, si tu veux, pour... Enfin bon, voilà.
Ouais, je dirais sur la VR, mais je suis d'accord. On a quand même encore, après, on va dire, là on arrive la première année de disponibilité commerciale de la VR, on a encore des jeux et des expériences qui nous sont proposées qui sont... La première approche, c'est-à-dire qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire dans la VR ? Voilà, il y a ça, ça et ça, c'est les trucs les plus évidents possibles, et c'est les trucs qui nous ont proposés. On n'est pas allé plus loin, à savoir si même on pourra aller plus loin. Mais moi, comme je le disais il y a quelques mois, est-ce que t'as essayé Arkham VR ?
Oui, le Batman. Ça, je l'ai ça vite fait. J'avais eu l'occasion de me retrouver dans un truc de présentation où effectivement j'ai pu tester ça 5 minutes, et effectivement ça c'était pas inintéressant. Ça fonctionnait même plutôt bien, mais tu restais dans un espace confiné.
Bah, je crois que ça va être...
On est toujours dans les mêmes limites. Hein.
C'est sûr. Mais moi, c'était vraiment Batman VR, Arkham VR qui m'avait... et surtout, quand tu vas au bout, il y a des utilisations de la VR. Je te recommanderais, si tu as l'occasion, c'est pas long, hein, c'est peut-être quoi, 1 heure, 2 heures de jeu, je te recommanderais de le faire parce que ça change pas les... principe de base de la VR. Je vais pas trop en dire, hein, c'était toujours dans un endroit et puis voilà. Mais ça les utilise de manière assez habile, assez intelligente. Et pour moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas tout essayé. J'ai que le PlayStation VR, mais c'est le jeu qui m'a proposé une expérience convaincante en VR. Le seul qui soit vraiment où je me dis pas juste oh tiens c'est marrant comme un petit truc de genre t'imagines la salle d'arcade où tu vas faire un truc pendant 10 minutes. Là, ça pourrait être une vraie expérience, même si ça dure pas 10, 15, 20 heures comme un vrai entre guillemets jeu vidéo. Même pour 2 heures, ça pourrait valoir le coup. Donc je serais curieux d'avoir ton avis si t'allais au bout au-delà de juste essayer deux trois minutes dans un event, quoi.
Ouais, bah écoute, après le truc c'est que tu vois, je j'ai pas encore d'intérêt du coup d'acheter le matos.
Ah non, bien sûr, c'est si t'as quelqu'un qui l'a, ouais. Mais écoute, quand tu viens à Helsinki un jour, je te ferai tester.
Ouais. J'ai pas encore de pied à terre, mais quand je me créerai un compte, tu vois, un compte finlandais.
C'est ça, pour la Nintendo Switch, et qu'il faudra que tu, c'est ça.
Faudra que je vienne vérifier mon pied à terre à Helsinki. On fera ça.
Un truc sur lequel je pense qu'on va se retrouver, je sais plus si t'étais fan ou pas, c'est enfin l'annonce de la date de sortie de Tekken 7, enfin, ils ont confirmé qu'il sortirait donc un petit peu plus tard que prévu, le 2 juin. C'est vrai qu'on commençait à sentir que la sortie début 2017 allait pas arriver, parce que bah on est début 2017 et on n'en avait pas entendu parler.
Pas.
Mais bon, le 2 juin, ça aurait pu être décalé un petit peu plus loin, donc on était, moi j'étais plutôt heureux. Et c'était marrant parce que je crois que c'est Harada, Katsuhiro Harada, le producteur, qui a lancé une petite pique envers Street Fighter V en disant on est obligé de le décaler parce qu'on voudrait pas qu'il sorte pas fini comme certains autres jeux de combat. Ce qui était assez terrible, surtout qu'ils ont une très bonne relation entre Capcom et Namco, mais bon, c'était assez...
Oh, c'est les rivalités, voilà. C'est les vieilles rivalités, tu sais, t'as deux petits hommes d'1m20 qui se prennent la tête régulièrement, mais ils sont très drôles tous les deux.
Tout à fait, et ils sont très potes.
Ah oui, ils s'adorent. Hein.
Et le jeu a l'air d'avoir, de mettre encore plus l'accent sur cet aspect complètement over the top de Tekken, avec dans la présentation, pour ceux qui l'ont pas vu, une scène où Heihachi entraîne son fils Kazuya au bord d'un volcan qui est hilarant, où justement il y a Kazuya qui doit avoir, je sais pas, 8 ans, qui essaye de lui mettre des coups dans le ventre, de s'entraîner, tu vois, à être le meilleur artiste martial possible, et Heihachi qui lui laisse mettre 2-3 coups et puis qui lui met un énorme coup de pied dans la face qu'il envoie valser à 20 mètres. C'est vraiment exactement l'esprit Tekken, quoi. C'est très drôle. Et ils ont l'air d'avoir beaucoup de scènes préenregistrées, qui sont, enfin, pas préenregistrées, mais l'aspect, justement, single joueur, enfin, jeu solo, pour se marrer comme ça, le faire en 2 heures et c'est terminé, mais a l'air d'avoir été travaillé avec des scènes d'action bien foutues, etc. Et en plus, le jeu qui a qui est sorti en arcade depuis maintenant quoi, ça doit faire 2 ans, donc qui est vraiment travaillé. Il y a eu plusieurs versions, l'équilibrage est bon, etc. Il y a des personnages qui seront disponibles en plus. Alors, il y aura un gros roster de personnages disponibles à la base. Une vampire narcoleptique, c'est vraiment n'importe quoi Tekken, qui sera disponible si on précommande le jeu. Tekken, c'est vraiment l'un des jeux sur lesquels je me dis, la précommande, on peut y aller, parce qu'à moins qu'il y ait un énorme problème, le jeu, on le connaît, quoi, donc ça va. Il y a un personnage en plus, les personnages classiques ont-ils dit, je cite le press release, les personnages classiques seront disponibles gratuitement en téléchargement supplémentaire. Il y aura des DLC gratuits pour les personnages classiques, avec un sous-entendu qu'il y aura d'autres personnages non classiques. Alors, on sait pas très bien ce que ça veut dire, mais des personnages non classiques qui seront vendus en plus. Donc, voilà, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Mais bon, ça a l'air quand même d'être un package sympa, non, Benoît?
Bah écoute, oui, c'est vrai que alors Tekken, moi c'est rigolo parce que je suis pas, c'est pas que je suis pas fan, mais par contre c'est vrai que le simple mot, ça me rappelle une époque, tu vois, où on jouait au 2 ou au 3 avec mes cousins, et on y a passé des journées et des journées à regarder les cinématiques de fin, à essayer de comprendre les relations, pourquoi les Mishima ils ont une vie aussi catastrophique, qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille quand même, c'est terrible. Mais c'est vrai que bon, par contre j'avais essayé de faire le, je sais plus si c'était le 5 ou 6. Et c'est vrai que le souci en fait, c'est que j'ai plus pour moi un jeu de baston, j'arrive pas à y jouer en ligne, tu vois, j'aime pas ne pas avoir le gars ou la fille à côté de moi pour jouer, ouais. Et alors par contre je sais que Tekken ça a toujours été très cool en couch gaming, si j'avais des potes sous la main pour refaire des soirées, ça serait avec grand plaisir, parce qu'effectivement le dernier il a l'air vraiment cool, quoi. Ça a l'air d'être tout ce que tu peux attendre d'un gros Tekken, avec plein de contenu, plein de bonhommes, comme tu dis, toujours les cinématiques et le côté complètement nanar mais assumé. J'aime bien, moi, quand ils se prennent pas au sérieux comme ça, ça me rassure un petit peu. Donc oui, je suis d'accord avec toi que la préco, a priori, si vous savez où vous allez, que le jeu en ligne tient ses promesses, mais il n'y a pas de raison, je pense que c'est pas mal. Moi, je le prendrais que si, voilà, j'ai l'occasion d'avoir quelqu'un à côté de moi pour me mettre sur la tronche. Parce que j'arrive pas à concevoir le jeu de baston en ligne, en fait. J'ai jamais réussi à passer le pas.
Bah, c'est une expérience très, très différente, hein, bien sûr. C'est avec des gens qu'on connaît pas. Il y a énormément de frustration, comme dans tous ces jeux compétitifs, que je découvre moi aussi avec Overwatch, et la frustration est très certainement présente. Donc, c'est sûr que c'est pas la même expérience. Mais ce qui me marque dans ce que t'as dit, c'est aussi, et peut-être surtout, cet aspect nostalgie dont je crois qu'il va parler à énormément de gens. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où il y a beaucoup de gens qui se souviennent de Tekken 2, Tekken 3 peut-être, vraiment Tekken 3 c'était la grande époque, et ah qui bah ont oui, peut-être hein. lâché l'affaire avec tous les Tekken les tags, les, ouais, le 4, 5, 6, voilà, où c'était plus vraiment trop leur truc. Et qui maintenant vont peut-être se dire, ah ouais, en fait, ça risque d'être sympa de se refaire un petit Tekken. Et c'est des gens, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont l'acheter. Comme on achète
pas Street Fighter. Tu peux dire FIFA, mais... hein.
Non, même pas FIFA, c'est pas FIFA que je pense. Moi, je pense à Mortal Kombat. Voilà.
Ah.
Tu vois, c'est le jeu que t'achètes, tu dis on va se faire deux soirées, moi je vais le faire en solo comme ça parce que c'est débile, et on va se faire peut-être une ou deux soirées dans l'année, ça va être sympa et puis ça va suffire, tu vois. Et ce qui est marrant avec Tekken, c'est que comme on l'évoquait encore une fois dans les épisodes précédents, c'est un jeu de combat qui réunit en fait tous les types de public. Il y a le public de Mortal Kombat qui va se dire on va y jouer deux soirées, ça va être marrant, on va se passer un bon moment et puis on va pas forcément poursuivre beaucoup au-delà. Et il y a un public de gens qui sont vraiment fans de jeux de combat, qui vont pousser le truc dans ses retranchements et qui vont essayer de devenir, enfin de vraiment jouer à fond. Et c'est en fait un mélange des types de public. C'est pas le même public, mais c'est un mélange des types de public de Mortal Kombat, de Street Fighter. Tu vois, les gens beaucoup plus hardcore, beaucoup plus sérieux. Alors après, il y a des gens qui jouent à Street qui vont pas forcément jouer à Tekken parce que jeu 2D, 3D, machin, voilà. Mais c'est un jeu qui ratisse très très large. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, j'ai pas les chiffres là, mais je crois que c'est le jeu de combat, la franchise de jeu de combat qui se vend le plus, hein. Plus que Street, plus que les autres, je crois. Je mettrai ma main à couper,
ouais,
là-dessus, mais
je suis pas sûr parce que de mémoire, Mortal Kombat marche très bien.
Oui, mais il marche très bien aux US. Tu sais, ouais. Tekken, il marche chez tout le monde. Il marche au Japon, en Europe, aux US, il marche partout.
Alors au Japon, ne nous avançons pas. Hein. Tu sais, le Japon aujourd'hui, c'est terminé. Ils vendent plus de jeux, ils les vendent chez nous. Mais non, par contre, ce qui est sûr, et là t'as raison, c'est que Tekken 7, je trouve qu'ils ont la même approche que le dernier King of Fighter. Ils se sont dit, on va pas faire comme Street, on va pas juste tout mettre l'accent sur le e-sport parce que l'e-sport finalement, ça concerne que quelques milliers de joueurs de Street. Toi et moi, tu vois, comme t'avais pas de contenu solo Street 5, c'était quand même, tu vois, on faisait très très vite le tour. Et là, ils se sont dit qu'ils allaient proposer un package beaucoup plus complet. J'ai pas tout suivi de Tekken, mais tu vois, pour moi Tekken c'est pas que le jeu de baston. Je veux dire, j'ai passé des après-midi à jouer au jeu de volley, au Tekken Ball. Le truc con,
il y a toujours le petit mode à la
dans
con,
la tête, hein. Tu vois, il y a des modes comme ça, enfin comme c'est un truc qui est effectivement tout public, qui est simple à prendre en main. Une fois que t'as compris 2-3 combinaisons et que tu peux juggle avec ton bonhomme, tu l'as, oh, c'est trop drôle. et à l'inverse, effectivement, t'as une profondeur de gameplay que j'ai jamais frôlé. Donc ouais, je suis d'accord, Tekken c'est un truc qui est grand public, mais qui est pas dans un sens négatif, en fait. C'est pas c'est pas négatif quand on dit ça. Ouais, et je pense qu'ils ont raison de vouloir proposer du contenu qui est pas uniquement ciblé vers un type de public, parce que c'était l'erreur de Street 5 et ils le payent encore aujourd'hui, quoi.
Ouais, c'est sûr. L'une des nombreuses erreurs de Street 5. Tu sais, oui, que moi, sur Street, j'ai essayé de jouer en compétitif un petit peu, mais d'une part, les problèmes qu'il y avait au début, et puis les temps d'attente entre le chargement, machin, tu peux pas revenir, tu peux pas dire, bon, bah, garde les mêmes persos, garde le même stade, mais mets-moi en training, comme ça, j'ai pas besoin de recharger à chaque fois que je sors d'un combat, enfin, bref, incompréhensible. Mais oui, donc Tekken, c'est une bestiole assez particulière, et moi qui ai eu des moments où, pour le coup, j'étais vraiment à fond sur Tekken, vraiment, genre, là, c'était j'essayais, je connaissais toutes les combos, j'allais en salle d'arcade, j'allais machin, enfin, je me dis peut-être, on verra. On verra.
Enfin, en tout cas, tu vas passer tout ton mois de juin dessus.
Enfin, c'est possible.
À moins qu'il y ait une grosse mise à jour Overwatch, tu vois, avec je sais pas quoi.
Des nouveaux persos, ouais. Non, c'est sûr.
Des nouveaux persos, normalement, tu devrais être dessus.
Bah, écoute, c'est pas du tout impossible. Hein. Tekken, c'est l'un des trucs qui me tire la corde nostalgie et pas que. Donc, c'est très possible. Et à propos de nostalgie, justement, il y a une news intéressante à plusieurs points de vue à propos de d'un jeu dont on n'a pas beaucoup parlé ici, qui s'appelle Strafe, qui est un FPS en fait, qui assume complètement l'aspect FPS des années 90, l'aspect fast FPS qui est un petit peu en train de revenir à la mode aujourd'hui, comme on en a parlé à différentes reprises. Mais l'aspect que je trouve encore plus intéressant, c'est que c'est une sorte d'évolution du style graphique rétro qui passe un petit peu du pixel art. Alors on a du pixel art 8 bits, 16 bits, et là on a vraiment une sorte de style graphique 3D des années 90, nostalgique, mais retravaillé, remis au goût du jour, au même titre que le pixel art 8 bits, 16 bits peut être retravaillé et remis au goût du jour. C'est une intention, au-delà du gameplay qui a l'air assez, assez, on dit en anglais tight, assez carré, il y a une intention graphique qui est assez intéressante aussi, et dont je me demande si elle ne va pas peut-être amener une nouvelle tendance dans ce style graphique rétro, qui serait un rétro 3D 90, quoi. Et c'est vrai que c'est assez plaisant, c'est assez intéressant comme approche artistique. Je sais pas si toi t'as jeté un coup d'œil là-dessus.
Si, si, bah ouais, parce que j'avais eu l'occasion de le voir passer dans les différents rôles de chez Devolver. Alors après, je suis pas aussi enthousiaste sur le côté artistique du truc, parce que ça reste un gros jeu pour étaler du sang partout. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un Minecraft plus au niveau du look. Hein. Je vois pas une énorme recherche visuelle. Par contre, c'est vrai qu'ils sont,
c'est moins, c'est moins des blocs, quoi. C'est vraiment des polygones pour le coup.
Au niveau de l'animation, il y a une espèce d'inertie que tu retrouves dans les, enfin. Après, j'arrive pas encore à me décider sur cette histoire de tendance, parce que d'un côté, Doom a quand même fait mentir tous les pronostics, en faisant quelque chose de moderne avec des vraies mécaniques de gameplay différentes que ce qu'on avait à l'époque, où il fallait pas juste récupérer des balles par terre, etc. Et là, Strafe, c'est vrai que c'est un jeu qui, je pense, va parler à un certain public, mais ça va être vite limité, parce qu'en plus, c'est un truc de avec des niveaux procéduraux, je crois. Donc je pense qu'en termes de durée de vie, ça va être un truc assez violent. Moi, je suis pas trop attiré par ce genre de jeu, parce que j'aime pas trop les jeux à la première personne.
Moi, je dis pas que ça m'attire, hein. C'est juste que je trouve ça intéressant au niveau graphique, quoi. C'est un truc qui me paraissait différent, mais bon, visiblement, toi, ça te convainc pas.
Après, c'est qu'en fait, je dois avoir maintenant, je commence à suivre pas mal la scène indé, et c'est vrai que des jeux comme ça, j'ai l'impression d'en voir passer 15 par jour en ce moment.
Ouais, c'est possible.
Mais c'est vrai qu'il y a des phases qui sont, par contre, là, pour le coup, bien réelles. T'as des phases vraiment de retour aux sources d'un genre, puis d'un autre, puis ça passe à autre chose. Et tout ça, des fois, effectivement, il y a une espèce de mayonnaise qui prend dans un et pas dans l'autre, et puis ça va donner naissance à quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que je pense que on va arriver un peu à la fin d'une ère d'un certain type de FPS, parce que les chutes des ventes des derniers Call of, des machins, vont probablement forcer les gros acteurs à revoir un peu la copie, comme l'avait fait Electronic Arts il y a quelques temps. Et à côté, vu que maintenant le jeu indé est quand même plus ouvert et tout, je serais pas curieux effectivement de voir ce que ça a donné. Après, bon, je réfléchis, parce que c'est toujours compliqué. Maintenant, il y a la scène e-sport, la scène indé, les ventes, toi, moi, enfin les gens normaux. Enfin, c'est un peu compliqué de tout absorber quand on discute d'un seul truc. Le fait est que Strafe, moi, je trouve pas ça si joli. Voilà, c'est tout.
D'accord. Bah, écoutez, vous pourrez vous faire votre propre idée. Il sort en mars, le 28 mars, si je ne m'abuse. Oui. Et bah, à vrai dire, moi, je trouve pas ça très, très joli non plus. Hein. J'avoue que c'est juste, j'ai trouvé ça différent, on va dire. Mais peut-être qu'effectivement, c'est une tendance qui sort influencée par la scène indé où, visiblement, moi, je la suis moins. Tu me dis qu'il y en a déjà beaucoup, ce style graphique est relativement commun. Donc, peut-être que c'est l'un qui est en train d'influencer le plus grand public, ce qui est évidemment la manière dont ça fonctionne, quoi. Donc, Prey a aussi eu sa date de sortie début mai. Vous souvenez de prêt qui a été annoncé il y a très très longtemps et puis décalé et puis qui a disparu et maintenant qui revient développé par Arkane Studio qu'on connaît bien notamment grâce à Dishonored. Ça sera le 5 mai. Ouais. Et bon, ça a l'air d'être bon un petit peu triple A, enfin ou double A, je sais pas, mais bon, ça a l'air d'envoyer quoi. Si vous êtes client de ce genre de truc, ça pourra peut-être vous intéresser.
Ah bah c'est le retour. T'as un article super de, je pense que ça doit être, j'imagine que c'est sur Gamasutra. T'as un article super sur le retour en force du immersive sim, qui est le genre de Deus Ex, de Dishonored, de System Shock, etc. Et c'est vrai que Prey, c'est la marque, tu vois, comme Deus Ex, etc. Que ces jeux-là, enfin les Deus Ex, Mankind Divided, les récents, reviennent vraiment sur le devant de la scène, quoi, des mix d'action, d'aventure, avec des choix, avec plein de possibilités de gameplay. Donc c'est ça, c'est pour le coup une très très bonne nouvelle parce que c'est un genre qui avait été complètement abandonné pendant plus de 10 ans. Il y avait plus de jeux avec l'échec de Deus Ex 2, on avait complètement oublié l'existence de ce genre de jeu. Et là ça revient méchamment. En plus Prey, il a l'air plutôt cool. J'étais un peu déçu par Dishonored 2, mais bon, pourquoi pas voir ce que ça va donner en plus. Mais tu vois, j'étais persuadé que ça s'appelait Prey 2, puisque du coup il y avait Prey hein, qui était sorti il y a très longtemps. J'avais ouais. même pas capturé qu'ils avaient changé le nom pour oublier l'Indien il y a 10 ans. Mais
non, je crois qu'ils l'appellent effectivement juste Prey parce que puis ouais. c'était tellement vieux l'ancien que.
Oui, et puis en plus ça a plus rien à voir, donc ils peuvent se permettre de changer tout. Mais voilà, en tout cas, je trouve que là pour le coup, tu vois, t'as une vraie tendance d'un retour en force d'un genre de jeu vidéo qui était un peu passé à l'as. Et bah moi, ça me fait plaisir parce que c'est un de mes genres préférés. Donc Prey, tu vois, même si l'univers, pour l'instant, la cinématique, ça fait trop Half-Life à mon goût. T'as vraiment l'impression de voir ça, Half-Life ouais. 3. Mais clairement, je me dis, bah c'est des jeux où t'as plein de possibilités. Tu peux la jouer furtif, pas du tout, bourrin, enfin t'as toujours plein de manières d'aborder chaque situation. Moi ça m'intéresse bien.
Et ben à voir, alors ça sera en mai. Autre news, Pillars of Eternity 2 est financé sur le site FIG. Alors pour ceux qui connaissent pas FIG, c'est un site qui propose non seulement de faire du financement participatif classique, mais qui permet aussi d'investir dans le financement de jeux et d'avoir donc en contrepartie une part de la société ou en tout cas du projet en question. Alors évidemment, si on investit, on peut pas juste donner 10 $. Hein. Je crois que c'est 1 000 $ minimum pour l'investissement. Mais Pillars of Eternity, qui était quand même, je pense, une bonne surprise, qui est dans la tendance. Y en a pas mal, hein, des sortes de Baldur's Gate, des Divinity Original Sin, etc. Et donc Pillars of Eternity 2 est maintenant financé. Il a les stretch goals. Il avait besoin $1 100 000, et là on y est à 1 600 000 déjà. Et on a encore 25 jours qui restent. Donc bon. Le jeu est financé. Ça fait plaisir en fait de voir que avec de nombreux jeux et de nombreux projets, pas que des jeux, mais financés par du financement participatif qui n'ont pas réussi à parfois à sortir ou à arriver au bout de leur développement ou même parfois qui ont déçu énormément les gens qui avaient participé, on a aussi une série de jeux qui finalement réussit à s'en sortir et réussit à financer des suites parce qu'ils ont trouvé leur public et que le produit était satisfaisant. Et très certainement, Pillars of Eternity fait partie du... Enfin, le 2 est plébiscité par sa communauté, quoi. Donc voilà, c'était
bah, surtout que c'est clairement le cas. Ils ont réussi à construire un truc et ils basent là-dessus parce que si tu regardes bien leur page, j'allais dire Kickstarter, mais leur page FIG, t'as rien en fait qui t'explique ce qui va être différent. En fait, ils t'expliquent qu'ils vont faire le 2, mais que c'est le même jeu, mais qu'il a un autre nom. Mais qu'il n'y a pas vraiment de choses nouvelles en fait qui sont prévues et du coup les gens en fait c'est exactement ce qu'ils veulent a priori donc c'est pour ça je pense aussi que ça marche aussi bien parce que c'est assez rigolo de voir que ce qu'ils rajoutent même dans les stretch goals c'est pas des trucs complètement foufou ou complètement innovants mais par contre c'est vrai que ça fait partie de ces rares jeux qui ont réussi sur le financement participatif et qui vont continuer donc tant mieux moi j'aime pas personnellement c'est vrai que j'ai pas réussi à rentrer dedans je suis plus de l'école Divinity Original hallucine justement.
Bah c'est un petit peu le même, la même, enfin c'est le même genre de jeu quoi. Bon c'est pas exactement. Alors je sais, mais ce que je veux dire c'est que Divinity aussi ils se sont financés, ils ont hyper.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bien réussi, enfin c'est des succès énormes quoi. Et il y en a un autre, je ne sais plus.
Bah il y a Wasteland, parce qu'il y a Wasteland 3 qui avait été financé sur Fig l'an dernier et eux c'était fou parce qu'ils demandaient quasiment presque 3 millions de mémoire. C'était un des plus gros objectifs annoncés à part les trucs genre Shenmue ou des trucs comme ça, tu vois. Mais donc il y a Wasteland qui était sorti comme ça. Et qui est d'ailleurs sur Fig, hein, puisque bah, tu sais, Fig, c'est les anciens de InXile, donc Brian Fargo, il y a Tim Schafer, enfin, c'est tous ces gars-là américains qui ont monté la plateforme. Et ouais, il y en a plusieurs qui ont bien fonctionné, mais. Non, mais Pillars of Eternity, c'est le pendant. On se prend au sérieux du RPG, du CRPG, comme on dit. Et c'est vrai que Divinity, c'est plus drôle. Et moi, je préfère le côté humour.
D'accord. Bah écoute, en tout cas, si vous êtes
client de, ouais.
Voilà, c'est financé, c'est quand même des bons produits, donc vous pouvez y aller. Un autre truc qui là, pour le coup, je pense, va pas trop te plaire, mais qui moi me fait lever un sourcil, et mon amour pour Marvel et l'univers cinématique de Marvel est tout titillé, on va dire, c'est l'annonce d'un partenariat entre Square Enix et Marvel pour The Avengers Project. Qui est un projet donc où il y aurait visiblement, alors on n'en sait pas énormément, mais ça serait une série de jeux autour de l'équipe des Avengers. Des Avengers, visiblement, ça serait plutôt ceux qu'on connaît dans les films, mais on ne sait pas si ça sera tiré des films ou des comics, mais en tout cas, visiblement, il s'est passé un gros truc pas très bien. Et il faut réassembler les Avengers, à vrai dire le prétexte importe peu, et c'est pas pour tout de suite parce qu'on aura la suite des annonces en 2018 uniquement, donc c'est vraiment une pré-annonce. Mais là où ça m'intéresse un petit peu, c'est le fait que Marvel avait annoncé il y a quelques mois de ça qu'ils arrêtaient de faire des jeux de qualité médiocre. On a vu énormément de petits jeux sur mobile, de jeux enfin dont on savait pas vraiment d'où ils sortaient, et ils allaient travailler avec des vrais développeurs pour faire des jeux de qualité.
Alors c'est con qu'ils aient choisi Square Enix.
c'est bon, je te laisse la paternité de cette citation, mais. C'est vrai qu'on a vu notamment un retour vers des trucs que les gens attendaient avec Marvel versus Capcom, hein, il y a quelques mois de ça. Et là, donc, un partenariat avec Square Enix. Alors, c'est Crystal Dynamics hein, qui vont travailler dessus. Enfin, Crystal Dynamics, c'est Eidos Montréal.
Bien, ça va. Donc voilà. C'est Tomb Raider, tu vois.
C'est ça. Donc bon, c'est pas Square Enix Japon, c'est Square Enix Occident. Donc peut-être que ça trouvera un petit peu plus grâce aux yeux de Benoît. Mais donc voilà, il va y avoir une série de jeux. Moi, je suis évidemment intrigué. On va attendre d'en savoir plus avant d'émettre un quelconque jugement. Mais en tout cas, je préfère voir ça plutôt que je ne sais quel Gamebox Digital qui va développer un jeu sur mobile qui sera en free-to-play avec 78 personnages qui ne servent à rien autant les uns que les autres. Bon, en même temps, il y a quelques jeux qui plaisent pas mal sur mobile. Je suis méchant, des jeux Marvel, mais c'est pas ma tasse de thé, quoi. Donc
non, mais par contre, c'est vrai que c'est une bonne chose. C'est pas surprenant finalement le rapprochement avec Square Enix, puisque Disney, ça fait un bout de temps qu'ils bossaient avec eux. Pour le troll, ça pourrait être drôle de voir que Kingdom Hearts 3 soit encore retardé d'un ou deux ans pour essayer d'intégrer des univers Marvel en plus des univers Disney. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette manière qu'a Disney depuis quelques temps de tout vraiment contrôler et d'essayer de tout monter en termes de qualité, parce que c'est vrai que bon, les films, moi je suis pas méga client, mais il faut quand même reconnaître que ça marche bien a priori à chaque fois qu'ils sortent un nouvel épisode d'un super-héros quelconque, ça marche. En plus, les critiques sont plutôt positives et tout. Donc c'est vrai que s'ils arrivent à reproduire ça dans l'univers du jeu, pourquoi pas, parce que c'est vrai que les jeux de super-héros, finalement, c'est un genre qui a toujours été dominé par les licences jusqu'à Infamous ou Prototype, et on n'a pas forcément de trucs très originaux. C'est souvent des trucs à licence bidon. Tu vois, il y avait un jeu Captain America sur la Wii qui était dégueulasse.
Généralement,
il y avait un jeu Wolverine. Alors, c'était pas Marvel, tu me diras, mais il y avait, les jeux à licence, on en a toujours une mauvaise image. Je pense que depuis que Batman a réussi à montrer qu'on pouvait faire des bons jeux à licence, à défaut d'avoir des bons films, ça a donné l'idée à pas mal d'autres de faire ça. Donc, pourquoi pas.
Ouais, c'est un peu... Moi, ça j'ai l'impression, alors c'est encore que des pressentiments, mais on a, je sais pas si tu te souviens aussi, le petit teaser sur le jeu Spider-Man. C'était Activision, d'ailleurs, qui édite ça, si je ne m'abuse.
Ah bah, et puis le jeu Spider-Man, c'est pas rien, c'est Insomniac qui s'en occupe, donc c'est voilà. Les mecs de Ratchet & Clank et tout. Enfin,
exactement, c'est... et le teaser qu'on avait l'air intriguant, là encore, après une série de jeux toujours sortis par Activision, Spider-Man qui était vraiment pas géniaux, c'était non. Encore ses licences sorties, enfin développées en 6 mois, 1 an, et puis voilà, ça fait un petit peu d'argent, mais... Ce qui est enthousiasmant, on va dire, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Marvel a l'air de s'intéresser aux jeux vidéo avec autant de sérieux qu'ils s'intéressent au cinéma. C'est-à-dire qu'ils ont l'air d'avoir des trucs qui sont faits par des professionnels, qui sont carrés, qui sont faits avec attention. Et évidemment, c'est pas surprenant parce que les films marchent tellement bien qu'ils veulent étendre le truc. Mais moi, ça m'enthousiasme pas mal, quoi. On a une série d'annonces là qui sentent en tout cas bien meilleures que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.
Ouais, surtout que j'avais pas regardé le teaser, je l'ai regardé là en direct. Et c'est Eidos Montréal et Crystal Dynamics. Donc c'est quand même deux gros studios. L'un qui a refait le revival de Tomb Raider, l'autre qui a fait le revival de Deus Ex. Donc en fait, c'est juste les deux plus gros studios de Square Enix en Occident. Si on oublie Yo Interactive, les mecs de Hitman, mais qui sont en train de bosser sur ça. Donc c'est là en fait, Square Enix, ils ont juste mis toute leur force dessus, quoi. Parce que c'est leurs deux plus gros studios en Occident, hein, donc c'est pas rien. Et voilà, c'est les mecs qui ont sorti, comme je te dis, Tomb Raider et Deus Ex. Donc effectivement,
il y a du pédigré.
C'est quand même un bon message envoyé pour dire on va pas ne pas le prendre au sérieux, quoi. Mm-hmm. C'est pas l'autre annonce de chez Disney qui rouvre Ravalanche pour la je sais pas combienième fois pour faire un jeu Cars.
Ah là là. Bon, la suite, c'est Levo qui a annoncé les jeux pour cette année. Alors Levo, pour ceux qui s'en souviennent pas, je l'évoque chaque année, hein, mais c'est le plus grand tournoi de jeux de combat du monde. C'est du 14 au 16 juillet. Et comme chaque année, en fait, la particularité de l'Evo, c'est que il est ouvert à absolument tout le monde. Il y a une quantité de jeux assez incroyable. Alors, il y a les principaux, hein, mais il y en a aussi d'autres à côté. Et je vais les mentionner dans un instant, mais il y a donc tous les participants qui viennent et qui jouent des milliers et des milliers de matchs pour arriver jusqu'au stade finaux. Mais donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde, quoi. Donc, j'imagine qu'il y a quand même des gens qui ont leur place en 32e ou en 16e de finale, les grands pros quand même. Mais il y a quand même une partie, en tout cas, si je ne m'abuse, qui peut arriver des qualifications qui sont tenues sur place pendant les 3 jours. Donc, c'est une organisation absolument folle. Et les jeux pour cette année, les jeux principaux, c'est évidemment Street Fighter V, Tekken 7, Super Smash Bros. Wii U et Super Smash Bros. Melee, qui est encore de la partie, King of Fighters 14 et Injustice 2, qui, lui, n'est pas encore sorti, mais qui sera disponible à ce moment. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a des jeux comme, enfin, les jeux japonais comme Guilty Gear, BlazBlue, etc. Voilà, juste pour signaler que l'Evo continue son bonhomme de chemin et c'est plutôt, c'est là aussi, j'utilise beaucoup le mot enthousiasmant, mais c'est plutôt enthousiasmant de voir qu'ils continuent et qu'ils ont bah, tous les jeux de combat qu'on apprécie, quoi.
Ouais, alors du coup c'est le moment où je pète l'ambiance en disant que, enfin oui, c'est organisé à Las Vegas, certes, rien ne dit que d'ici le mois de juin ça soit pas organisé dans un autre pays. Hein.
Alors effectivement, c'est un truc qu'on peut pas ne pas évoquer puisque, et en particulier en fait pour l'Evo, c'est les jeux de combat attirent des gens d'à peu près partout. Des jeux, il y a beaucoup de jeux qui attirent le public occidental ou asiatique. On pense au MOBA, au FPS, etc. Là, l'Evo, il y a beaucoup de gens de partout, y compris bah, d'Amérique du Sud, ça va encore, et du Moyen-Orient, avec les le Muslim Ban. Comment on dit en français le ban?
Je sais pas s'il y a un terme. Ouais. Je lis mes infos en anglais, donc c'est vrai que j'ai pas regardé comment on dit
vrai.
En français.
Donc, l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour des personnes venant de 7 pays à majorité musulmane, qui pose énormément de problèmes, et sans partir dans la politique uniquement, vous savez que j'ai une émission politique qui s'appelle The Phileas Club, je vous encourage à aller l'écouter si ce genre de choses vous intéresse. C'est vrai que ça a des conséquences bah, dans tous les domaines d'activité et dans toutes les industries, et ça inclut évidemment la tech et le jeu vidéo. Et en l'occurrence, alors on verra comment ça évolue d'ici juin, ou juillet pour l'Evo.
Oui, juillet mais, plutôt d'ailleurs, ouais.
Mais oui, ça a des conséquences déjà aujourd'hui avec des gens qui ne peuvent pas simplement entrer aux États-Unis. Alors, je ne sais pas s'il y aura énormément de ressortissants de ces pays qui voudront participer à l'Evo, mais on a, par exemple, à la GDC, qui a lieu plus tôt que l'Evo, certaines personnes qui ont été touchées par le ban, l'interdiction d'entrer sur le territoire américain. Évidemment, des gens qui n'ont rien à voir avec, enfin, c'est évident de le dire, mais avec le terrorisme qui est utilisé pour justifier l'interdiction d'entrer sur le territoire. Donc, voilà, on ne sait pas si ça va avoir des conséquences là-dessus aussi. Je sais que toi, tu as suivi la chose de manière assez...
Ouais, parce que... Du coup, forcément, c'est pas tant l'aspect politique, parce que ça, je laisse ça à des gens qui ont les connaissances et l'envie de commenter tout ça. Moi, je vois juste ça sur l'aspect purement jeu vidéo en tant que journaliste. Je me dis, c'est tout con, mais ça peut. On est peut-être à l'aube d'un changement profond de paradigme sur le jeu vidéo. On sait que le président en activité a des visions extrêmement rétrogrades sur le jeu vidéo et qu'il a jamais communiqué sur ça ni quoi que ce soit, alors que les États-Unis, c'est quand même le centre du monde du jeu vidéo. Il y a tous les plus grands salons. La GDC, c'est là où se dessinent toutes les tendances des développeurs, toutes les avancées, etc. T'imagines un truc, si c'était arrivé il y a quelques semaines, je veux dire, un truc comme le CES à Las Vegas, il y aurait peut-être eu je sais pas combien de participants, de commerciaux, de gens qui auraient pas pu venir. Donc c'est vrai que là, l'impact de cette décision-là en tech et en jeu vidéo, on n'en mesure pas encore toutes les conséquences. Moi, je suis en train d'essayer tout simplement de rassembler les différents, comme toi, tu as pu le faire, les premiers retours, les premiers témoignages de personnes de l'industrie qui peuvent éventuellement donner leur avis là-dessus. Moi, je t'avoue que je suis quand même inquiet sur les capacités à faire bosser des studios qui pourraient être en Moyen-Orient, alors que c'est justement une des régions du monde qui est en train le plus de gagner. Enfin, certains pays sont en train de rentrer clairement dans le commerce mondial, puisqu'ils achètent les consoles, ils achètent les jeux. Street Fighter et Tekken ont fait des personnages arabes exprès pour eux, pour justement toucher un peu ce public. Rachid vient d'Arabie Saoudite, donc lui ça va, tu vois, il a le droit de venir aux États-Unis. Mais dans Tekken 7, ils avaient fait la même chose, et c'est une vraie preuve d'ouverture. Et là, là, au-delà des considérations, je te dis humaines, j'ai l'impression qu'au niveau commercial, ça pourrait avoir des conséquences assez graves pour le jeu vidéo. Donc pour l'instant, on peut pas s'avancer parce que ben, voilà, c'est trop récent et que on voit bien qu'il y a une espèce de résistance qui se met en place aux États-Unis. Mais je t'avoue que je surveille ça vraiment d'un œil attentif, parce que si les États-Unis devaient ne plus être le centre du monde de jeux vidéo à cause de l'autarcisme dans lequel le pays a l'air de vouloir aller beaucoup plus vite que ce que tout le monde imaginait, ça pourrait avoir des conséquences sur beaucoup beaucoup de choses. Enfin, vraiment, tu vois, on pourrait imaginer que le Canada, qui est déjà une place très forte, pourrait se renforcer, que l'Europe, avec la Gamescom, pourrait devenir vraiment le vrai gros salon. Si le 3, bah, y a une partie des gens qui peuvent pas y aller, bah, du coup, on le fera ailleurs, hein, tout simplement. Donc, voilà, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais c'est au-delà du drame humain et politique, etc., d'un point de vue business pur pour le jeu vidéo, peut y avoir des conséquences qu'on ne soupçonne pas encore.
Oui, tout à fait, oui. C'est sûr que, et d'ailleurs, on le sent dans la tech, également, il y a beaucoup de leaders de grandes sociétés tech qui ont exprimé de manière assez claire leur opinion sur la chose. Alors, ils parlent d'immigration en général. C'est vrai que les 7 pays en question sont très spécifiques, mais d'immigration en général et de l'attitude qu'il y a pour le pays, enfin, c'est assez invraisemblable de se dire qu'aux États-Unis, l'immigration est remise en question. Surtout quand on voit que les CEO, les présidents, les fondateurs de 80% ou 90% des sociétés les plus importantes des États-Unis sont fondées par des immigrés de première, deuxième, troisième génération. Mais enfin bon, là on part dans des considérations un petit peu plus vastes. Mais t'as raison, ça peut tout à fait avoir des conséquences pour l'industrie au sens large si la tendance inquiétante se confirme. Mais bon.
Mais j'espère pas. Enfin, tu vois, je pense que personne le souhaite. Ouais. Mais voilà, c'est juste de dire que c'est fou parce que pour une des rares fois, tu vois, d'habitude, quand la politique arrive à mettre son nez dans le jeu vidéo, c'est pour des trucs assez triviaux comme la censure en Australie, la censure en Allemagne, éventuellement les crédits d'impôt au Canada. C'est des choses très terre à terre. Là, c'est quelque chose d'un peu plus violent. Et je t'avoue que jusqu'à présent, je pensais pas qu'on pouvait en arriver à des conséquences comme ça. Donc bon, voilà. Moi, pour l'instant, on surveille. Personne. Si on a l'occasion d'en reparler, je serais ravi de revenir en discuter si on a des vrais exemples. Mais voilà, je t'avoue que je suis quand même assez inquiet et rien que pour la partie jeux vidéo. Si on commence à dériver sur le reste, je panique complètement et je dors plus.
Je t'avoue que j'ai eu un petit peu de... Enfin bref, écoutez The Phileas Club, le dernier épisode a été enregistré en fait juste avant l'explosion, donc j'étais encore un petit peu calme. On va essayer de reprendre ses esprits pour rester, raisonnable et... Oui, raisonnable si on peut l'être. Je verrai ce que je fais pour cette émission qui me tient énormément à cœur, où justement j'essaye de rassembler plus que de diviser, et on verra ce que je fais pour les épisodes à venir. Mais c'est vrai que là c'est quelque chose d'inattendu, parce que on pensait pas que le président Trump ferait autant si vite. C'est quand même ironique parce qu'il l'avait dit. Donc, mais on pensait pas qu'il, enfin même ceux qui essayaient de le défendre disaient bah oui, mais enfin évidemment il fera jamais ça. Mais d'un autre côté, on a la réaction très virulente de l'opposition à ces décisions dont je pense qu'on ne l'attendait pas aussi violente. Hein. Il y a des gens dans la rue partout aux États-Unis pour contester ce type de décision. Donc on verra les conséquences que ça pourra avoir, évidemment, sur la société en général et puis sur le jeu vidéo. Espérons qu'ils devront faire un petit peu marche arrière, au moins pour ces aspects qui sont évidemment néfastes à ces industries, quoi. Bon, avançons avec. C'est compliqué, hein. Tu sais, j'avais. C'est difficile de pas du tout en parler. Moi, je suis évidemment Twitter. Les auditeurs le savent. C'est un de mes réseaux sociaux préférés. Et puis, je vois tellement de gens qui parlent de ce sujet qui est, enfin, important, quoi. Là, on dépasse la politique simple où il y a beaucoup de gens qui disent parlez que de politique. Enfin, ne parlez pas de politique. On s'en fout. Nous, on veut de la tech ou du truc ou du machin.
Ouais,
mais à un moment. Quand il y a quelque chose d'aussi important qui se passe dans le monde, enfin la politique touche tout le monde, donc.
Écoute, t'as un édito que j'ai trouvé très très pertinent et assez rentre dedans, qui était sorti sur The Guardian, qui est un journal anglais, qui en gros faisait le. Je fais aussi une grosse digression, mais qui en gros faisait le constat que. Pendant toutes ces années où le jeu vidéo avait la tête dans le sable en disant on parle pas de politique, oui on tue des arabes dans Call of Duty mais c'est pas grave, on peut pas en parler, il faut pas en parler, et pendant des années on en a pas parlé, pendant des années personne n'en a parlé, et quelque part il faisait un peu le constat que à la fois les gens qui ont pu soutenir le Gamergate ou qui aujourd'hui se tournent vers des décisions aussi extrêmes que les positions de Trump, etc., quelque part ont été non pas nourri et poussé par le jeu vidéo, parce que ça serait fou d'en arriver là, mais en tout cas pas freiné et n'ont pas été tu vois peut-être éduqué ou cultivé à autre chose, et le jeu vidéo pendant des années en étant finalement pas si diversifié, en étant finalement assez consensuel et pas suffisamment peut-être avec des positions par rapport à la diversité des gens, des peuples, des nations, etc., finalement a quelque part encouragé ou en tout cas laissé faire une installation de haine, etc. Et c'est un article que j'ai plus le lien, mais au pire je te le retrouverai, que j'avais trouvé vraiment vraiment très intéressant, parce que sans mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant oh là là le jeu vidéo c'est méchant, ils essayaient de comprendre que quelque part les industriels ont aussi une certaine responsabilité en laissant faire des choses dans les jeux, en laissant des sujets traités qui font que une certaine partie de la population qui ne basait son enseignement que sur le jeu vidéo, parce qu'ils avaient lâché la télé, parce qu'ils lisaient pas les journaux, parce qu'ils étaient pas politisés ni quoi que ce soit, forcément ils ont une vision du monde qui est extrêmement étriquée.
Je crois que
ça c'est un sujet que je trouvais vraiment très bien abordé. J'essaierai de te retrouver le lien.
Ça marche. Mais tu sais, c'était tout le sujet du Gamergate, hein. C'était exactement le problème que soulevaient les gens. Alors ça a commencé avec la question de l'image de la femme, mais d'une manière générale, c'était la diversité dans le jeu vidéo, et c'était exactement le problème. C'était le fait que, quand on a une approche assez monolithique d'un média qui est un média de masse, ça peut nuire à certaines personnes, à certaines minorités. Et c'est dommageable, et donc il faut que l'industrie soit jette un regard responsable sur son état aujourd'hui. Il s'agit pas de dire c'est regarder le mal qu'ont fait les gens qui sont venus avant nous. L'idée c'est de dire voilà où on en est aujourd'hui. Il faut agir de manière un petit peu responsable aujourd'hui et essayer d'intégrer un petit peu plus de diversité dans le média, parce que c'est tout simplement important. Et je pense que la leçon a été entendue, et on le voit dans différents jeux. Alors moi, je parle souvent d'Overwatch sur le sujet, parce qu'à mon sens, vraiment, pour ceux qui connaissent le jeu, c'est l'un des meilleurs exemples qu'on ait pu voir ces dernières années. On a une représentativité qui va... C'est le monde, quoi, c'est normal. Il y a des femmes, des arabes, des asiatiques, et ils sont... dépeint de manière respectueuse. J'avais entendu d'ailleurs des critiques à propos des personnages des jeux de combat qu'on évoquait tout à l'heure, de Rachid dans Street Fighter V et de
c'est Saïd, je crois, dans Tekken.
Non,
c'est pas Saïd.
Bref, il y en a un autre, et c'est un petit peu toujours les personnages qui sont très stéréotypé, quoi. C'est entre guillemets la serviette sur la tête, les machins. Bon, et dans des jeux comme Overwatch, justement, c'est assez différent. On a des personnages qui sont, voilà, alors oui, il y a un cowboy quand c'est un américain, mais on n'a pas des chinois avec des chapeaux triangles, tu vois. Enfin, c'est un petit peu plus
quelque part. Je trouvais que c'était intéressant, parce que alors autant le jeu, on n'est toujours pas trop d'accord, moi j'y vais jouer, j'aime bien sans plus, mais c'est pas le sujet. c'est plus qu'effectivement, je trouve ça bien qu'un mec comme Macri, ça soit le cliché du cow-boy comme ça, et que les autres gens des autres pays, bah voilà, c'est eux pour le coup ne sont pas que des clichés sur pattes, et encore parce que c'est bien pour une fois que ça soit l'inverse, quoi, que ça soit un petit peu retourné les situations, parce que on bah, a eu effectivement trop de personnages d'autres pays qui étaient représentés. Même là, je veux dire, ils ont fait Overwatch, ils sont leur, je pense que tu dois en parler, leur pour le Nouvel An chinois, ils ont proposé des niveaux, des costumes, etc. Et c'est, et ben c'est clean, tu vois, c'est pas, ils en font pas tout un plat non plus. C'est, ils font ça. Je trouve qu'ils ont effectivement Blizzard là-dessus une attitude tout à fait responsable et exemplaire à ce sujet-là.
Et c'est vrai que tu parlais de du fait que Macri était le cliché cow-boy. C'est vrai qu'il l'est un petit peu, mais il y a une approche qui est différente quand on parle de la, entre guillemets, majorité et des minorités. C'est un petit peu comme les situations de monopole. Les mêmes règles ne s'appliquent pas quand t'as sur une industrie un monopole et quand il y a une compétition qui est plus saine. Quand t'as un monopole, on met des restrictions ou on met des règles particulières. Et là, c'est un petit peu le même problème. Quand t'as une minorité, il est compliqué de la traiter de la même manière que les gens qui sont pas dans la minorité. Des trucs qui passeraient pour l'un passent pas pour l'autre. Donc, bref, on s'est un petit peu écarté du sujet, mais c'est une question qui est intéressante à explorer. Surtout que, comme je le disais, à mon sens, on a une vraie évolution du média jeu vidéo qui a, d'une part, par l'indépendant. Il y a toujours un jeu qui me vient à l'esprit, enfin deux, il y a Papers, Please et This War of Mine, qui sont des jeux qui restent des jeux, mais qui traitent des sujets graves, importants, de manière responsable. Et à mon sens, si on a Call of Duty qui est le blockbuster où on va dans des pays moyen-orientaux, où, enfin, on va toujours, enfin, les méchants traditionnels, les terroristes arabes et les méchants russes, même si ça peut être justifié par le contexte de la réalité, tout simplement, eh ben, s'ils existent, ça pose pas de problème si on peut proposer d'autres choses à côté. C'est cette question de variété. Et jusqu'à il y a quelques années, malheureusement, on avait une vision qui était un petit peu monolithique et très simpliste dans l'ensemble du jeu vidéo. Et je crois qu'aujourd'hui, le scandale du Gamergate a fait son office et les développeurs prêtent attention à ces problèmes d'une manière qu'ils n'existaient pas avant. On a des héroïnes, on a des gens de différentes ethnies, de différentes cultures. Et là où c'est, je ne sais plus si j'en avais parlé auparavant, là où ça me fait le plus plaisir, c'est que les jeux restent bons. Et il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah oui, mais si on force, si on met au forceps des minorités dans nos jeux vidéo, ça pervertit l'intention artistique, machin, une sorte de justification. »
Oui, c'est vrai que ça faisait partie des arguments.
Voilà. Ouais. Et là, on a la preuve que, au contraire, ça ne nuit à rien du tout. C'est juste que bah, y a des personnages différents dans les jeux. Et les jeux restent bons ou mauvais, mais enfin, ils restent ce qu'ils sont, quoi. Donc, voilà.
Non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a eu les effets bénéfiques de ça. Ça a été effectivement qu'aujourd'hui, tout le monde, tu vois, des gens, pour connaître des gens qui bossent chez Ubisoft, ils se tordent vraiment dans tous les sens pour essayer de faire des jeux qui sont justement peut-être un peu plus respectueux, qui respectent les diversités, qui essayent d'être justement pas trop offending, comme tu dis en anglais, tu vois, qui vont pas offenser une partie de la population bêtement par ignorance. Et de voir ça dans tous les grands studios, c'est effectivement un signe très positif. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut être c'est dommage, tu vois, d'en arriver là où on en est aujourd'hui dans la situation mondiale, mais en tout cas, le jeu vidéo a l'air de se relever un petit peu, quoi.
Oui, et ce qui veut pas dire encore qu'il faut forcément à tous les coins de rue mettre dans chaque jeu je sais pas une lesbienne, un arabe, un russe gentil et je sais pas quoi, c'est pas le sujet. C'est juste que c'est comme dans un pays, je reprends un autre exemple, mais dans un pays où il y a je connais pas les chiffres, mais on va dire 2 3 4 5 millions de noirs et que tu vois jamais de noirs à la télé, bah il y a un problème. Voilà. Hein? Quand 10% de la population est différente et qu'il n'y en a jamais qui sont représentés,
c'est dans le gouvernement forcer, ou ailleurs. Quoi. Tu vois, oui. C'est pas l'idée de forcer, c'est juste que quand tu abordes ces sujets-là, tu les fasses de manière intelligente. C'est-à-dire que, tu vois, je veux dire, c'était Overwatch où il y avait eu toute une micro-polémique parce que l'héroïne, j'ai oublié son nom,
Tracer.
Est gay, mais enfin, je veux dire, ils en ont pas fait tout un plat, quoi. Blizzard, voilà, c'est tout. Elle est amoureuse, elle fait un bisou à sa copine. Et ils ont pas cherché à en faire tout un truc mis en avant, peut-être comme le, tu vois, c'est comme Mass Effect. Ils avaient réussi à être finalement, bah oui, Shepard, il peut avoir des relations avec tout le monde, hommes, femmes, extraterrestres. Et ils se prenaient pas la tête. Et c'est finalement juste ça. L'idée, c'est pas de forcer les choses. Oui. C'est pas de balancer des trucs en pleine tête pour choquer les deux, trois rednecks qui sont jamais sortis de leur bled. C'est juste que, ben, voilà, le monde est comme ça, donc pourquoi le jeu vidéo serait pas aussi, aussi divers?
Écoute, je te laisse le mot de la fin sur ce sujet parce que c'était exactement ce qu'il fallait dire.
Oh bah, merci.
Parlons, donc revenons pour quelques news au simple jeu vidéo. Heroes of the Dorm, vous connaissez cette compétition peut-être qui était assez sympathique sur Heroes of the Storm, bien sûr. La raison pour laquelle j'en parle, il y a déjà eu deux éditions de ce championnat qui met en compétition des gens de différentes universités américaines qui vont gagner les frais d'université. S'ils gagnent, leur université est entièrement payée. On sait qu'aux États-Unis, ça coûte très cher.
Ah ouais, c'est pas rien.
Oui, 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 c'est plusieurs dizaines, voire quelques centaines de milliers de dollars. Et en l'occurrence, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que pour la troisième saison, ils vont lâcher ESPN, donc la chaîne de sport américaine, et ils vont diffuser exclusivement sur Facebook. Alors, on imagine qu'il y a un deal qui s'est passé derrière. On sait que Blizzard travaille avec Facebook, qu'on peut déjà streamer directement depuis les applications et depuis Battle.net sur Facebook. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y avait eu c'était un événement que ça passe sur ESPN parce que c'était ESPN 2 ou je sais plus quoi, mais ça passait quand même à la télévision. Et là, d'une part, ils abandonnent la télévision pour aller vers Facebook, ce qui est intéressant. Et d'un autre côté, c'est intéressant de voir que Facebook pousse ses outils de diffusion en live de cette manière, peut-être pour aller titiller Twitch. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, c'est quand même un gros boulot, mais pour faire le système de diffusion, pourquoi pas du jeu vidéo aussi, pour un public un petit peu plus néophyte, c'est intéressant à noter, quoi. C'est un mouvement de plus de Facebook dans cette direction.
Ouais, non, ça va être un truc à surveiller, hein, dans les années à venir, parce que c'est vrai que Twitch, pour l'instant, ils jouissent d'un certain monopole. Rien que là, avec les, ils avaient tweeté qu'il y avait plus d'un million de spectateurs devant les dernières compétitions de League of Legends là qui avaient eu lieu ces deux ou trois derniers jours. Hein, parce qu'il y en a tous les trois ou quatre jours des compètes de LOL, mais là, ces derniers jours, il y avait vraiment beaucoup de monde. Faut voir, en fait. Je pense que ça va mettre encore pas mal d'années avant de se stabiliser les moyens de diffusion de l'e-sport. Parce que bon, Heroes of the Storm, c'est pas le jeu qu'aurait voulu avoir Blizzard. Je pense que ça a peut-être pas le succès espéré. Je pense pas que la compète là en question, tu vois, ça ait un impact énorme. Maintenant, c'est vrai que c'est rigolo qu'ils choisissent Facebook au lieu d'un Hitbox ou d'un Twitch ou d'un je sais pas quoi. Donc à voir.
Des sorties pour février, on va faire un petit résumé. On a donc le 2 Fire Emblem Heroes qu'on a déjà évoqué, le 7 Nioh que tu dois surveiller de près, j'imagine, toi, puisque
ah bah oui, bien sûr.
Oui.
Un Dark Souls avec des sabres et des japonais, oui, bien sûr.
T'as essayé les démos, j'imagine, t'as des impressions?
Ouais, je les ai toutes faites, les tests sont en cours, si les gens sont intéressés, là, qui nous écoutent, l'embargo tombe le 2, donc le 2, à je sais plus quelle heure, tous les forums, NeoGAF, Twitter et tout, seront remplis de tests, puisqu'ils sont en train de le tester, là. Et bah écoute, ouais, moi bien sûr j'aime bien, c'est un mélange entre un Dark Souls et un truc genre Onimusha ou ce genre de choses là, donc moi ça me parle tout de suite, un jeu difficile avec en plus un background japonais fantastique, ça a l'air très bien.
For Honor sort le 14, on a eu la bêta ce week-end, j'ai même pas eu le temps de l'essayer malheureusement. Bon, je me suis un poil refroidi sur For Honor, on va dire. Un poil refroidi. Mais on verra, on ne sait jamais. Le 21, il y a Halo Wars 2 qui a ses fans. Le 28, Horizon
qui
Zero
a
Dawn.
Ses fans. Putain, mais alors là, c'est là, alors attends, après l'échelle de l'optimisme, on a l'échelle du tact, quoi.
Bah,
Halo
oui.
Wars 2, mais tout le monde s'en bat les couilles. Microsoft, les premiers, ils en ont rien à faire. Ils
ah,
en parlent
je,
même
je
pas,
suis
quoi.
Pas d'accord. Écoute, c'est peut-être
ils
parce que moi,
pas.
Je parle beaucoup avec des anglophones. C'est vrai qu'on n'en entend pas énormément parler de Halo Wars 2, mais moi, je parle beaucoup avec des anglophones et il y a des gens qui garde un très très bon souvenir de Halo Wars et qui attend Halo Wars avec pas mal d'impatience.
Ah ben
alors
tu
je
vois.
Te dis pas que ça va être leur jeu de l'année, mais c'est un jeu qu'ils feront avec plaisir, quoi.
Non mais voilà, tu vois, un vrai exemple de diversité.
Exactement. Et le 28, Horizon Zero Dawn, pour lequel je suis un petit peu surpris de la modestie du plan marketing, on va dire. Quand tu parlais de tact, je vais dire ça comme ça. J'aurais imaginé que c'était un jeu qu'il pousserait un peu plus. Donc, je sais pas. On verra ce que ça donne. Mais je garde un enthousiasme certain pour ce jeu. Mais je suis interloqué, on va dire, par le fait que, bah, justement, ils n'en parlent pas plus. Sony, ils fassent pas une plus grosse campagne autour.
Ils ont plein de trucs. Franchement, ce début d'année, c'est une violence sans nom, parce que quelques jours après, on va avoir Nier Automata, il y aura Zelda, enfin, des jeux, il y en a tout le temps qui sortent, et Horizon, je pense que comme c'est une nouvelle licence, ils peuvent pas non plus foutre toute leur force vis marketing derrière. Guerilla, les mecs de Killzone n'ont pas non plus que des gros succès à leur tableau de chasse, et je pense qu'ils comptent sur, beaucoup plus sur la presse et le côté, influenceur qui a un vrai programme marketing quelconque. À mon avis, je serais pas surpris de recevoir dans les semaines à venir des propositions pour faire des vidéos payantes ou des trucs comme ça. Parce que je pense que c'est typiquement le genre de jeu qu'ils vont vouloir montrer,
ils vont profiter
pour remettre en avant avec la PS4 Pro et faire pousser en avant par la communauté, ouais.
Possible, effectivement, c'est pas bête. Et aussi le 28, il y a Torment Tides of Numenera qui sort enfin après un long moment en early access et qui a bah là pour le coup qui a ses fans, je le dis pas avec ironie.
Ah bah je l'ai backé moi, je m'en souvenais même plus mais je l'avais backé.
Oui, donc
donc je devrais recevoir un code un jour.
Tu l'as pas testé en
En fait, j'avais lancé l'early et comme je trouvais pas le marque-page, au bout de 2 ou 3 heures de lecture, j'essayais de mettre un marque-page dans mon écran, mais ça marchait pas, tu vois. L'early, j'ai pas joué. J'ai pas un souvenir d'avoir joué. J'ai un souvenir d'avoir lu beaucoup de textes. Pas inintéressant, mais tu joues pas. J'ai vu beaucoup de pavés, donc je vais voir, je vais me le garder parce que j'avais adoré Planescape Torment, j'en garde un très bon souvenir, mais j'ose pas imaginer.
Tu peux décrire le style de jeu que c'est pour les gens qui
connaissent pas. C'est du jeu de rôle à l'occidental très classique, donc ça se passe, c'est les équipes historiques de Baldur's Gate, donc c'est toujours dans l'univers de Donjons et Dragons, des Forgotten Worlds, mais là c'est des Forgotten Realms, pardon, donc c'est un univers légèrement différent, les Planescape, en gros, où c'est un univers un peu plus gothique, un peu plus ésotérique, donc c'est pas ce truc très high fantasy de Baldur's Gate avec des elfes, des nains qui peuvent pas se piffrer. Et Planescape Torment, en fait, on joue un personnage mort ressuscité sur une table d'opération avec toute son histoire écrite dans le dos au couteau, mais qui pouvait pas lire parce que c'était dans une langue bizarre, qui était accompagnée par une tête de squelette qui parlait beaucoup et qui n'arrêtait jamais de jacasser d'ailleurs. Et à côté, t'as un système de combat assez complexe à prendre en main, en tour par tour, avec des jets de dés et des trucs comme ça. Donc c'est un jeu avec un univers, le Planescape Torment, extrêmement riche, extrêmement détaillé pour les amateurs de lore. C'est un truc dans lequel tu peux t'enfoncer des milliers d'heures sans problème. Et là, bah forcément, quand il y avait InXile qui avait annoncé qu'ils allaient faire Torment Tide of Numenera, le fils spirituel du jeu, si tu veux, ça avait enflammé forcément toute la communauté des joueurs PC barbus. Parce que voilà, c'est un des plus grands RPG occidentaux qui soit jamais sorti, avec Fallout, des choses comme ça. Et là, d'en voir une suite, forcément, c'est attendu au coin de la rue. Mais moi, j'avais lancé l'Early Access et je regrette parce que, bah, forcément, tu voyais les bugs, les machins. Donc, j'ai tout supprimé et j'essaierai d'y jouer calmement quand il sera sorti pour tester, parce que les Early Access, en fait, j'en suis revenu. J'aime bien acheter le jeu en Early Access pour soutenir, mais j'y joue jamais, en fait.
Ouais, ouais. Tu préfères avoir le truc fini.
Ah ouais. Sinon, on passe à côté du truc, quoi. Enfin. Je sais pas, ça me,
eh ben
ça
écoute,
me parle
le,
pas.
Le 28 arrive et tu pourras enfin y jouer.
Oh bah non, parce qu'il y a Horizon, que deux jours plus tard il y a Zelda et que quatre jours plus tard il y a Nier. Donc non, non, j'y jouerai.
Bon, tu te laisseras, tu te dans laisseras l'été. Dans un coin de...
Ouais, peut-être cet été j'aurai le temps, on verra.
D'accord. Bon, et puis pour finir, deux petites news mobiles avec d'abord Oceanhorn 2 qui est un petit peu le Zelda du mobile. Je sais pas s'il est sorti sur Android, mais en tout cas, il était sorti sur iOS. C'est un gros succès et c'était vraiment un jeu qui a, disons, respecté selon selon les gens qui m'en ont parlé, la tradition vraiment et l'esprit de Zelda. Et donc, le deuxième est assez attendu et il est développé sur Unreal Engine 4. La raison pour laquelle je l'évoque, c'est que les screenshots qu'on a eus, qui semblent venir d'un iPhone, enfin d'un téléphone en tout cas, hein, vu l'interface, et c'est que des screenshots, donc il faut quand même mettre quelques bémols sur l'appréciation qu'on en a. Ce qui me frappe, en fait, c'est que ça a l'air beaucoup plus beau que Zelda, quoi. Au niveau graphique. Mais je suis désolé, je peux pas, c'est pas du tout pour troller, mais je peux pas m'empêcher de dire, alors oui, peut-être que c'est sur le dernier téléphone le plus puissant à 800€, machin, et donc forcément truc bidule. Oui, tout à fait, mais c'est quand même marquant, et quand on se dit que les téléphones se renouvellent tous les ans et que la Switch aujourd'hui va être mise en vente,
elle est déjà dépassée,
voilà, et qu'elle est déjà dépassée, bon, ça n'en, même si les graphismes c'est pas tout et les graphismes c'est pas l'essentiel, et oui, je suis 100% d'accord, il n'empêche, quand je vois ces screenshots,
c'est que les graphismes, c'est rien.
Oui, ça, mais il n'empêche. Je suis désolé, c'est pas rien. Ça peut compter et ça compte pour certains. Enfin, je sais pas, moi, quand je vois les graphismes d'Ocean,
non, mais je suis en train de regarder là. C'est vrai que c'est joli. Hein, il y a pas de souci. C'est assez impressionnant ce rendu là. Avoir du coup derrière ce que ça propose, je le connaissais pas, tu vois, ça c'est pour ça que c'est bien de t'écouter, tu vois, je découvre un truc sur mobile. J'ai pas d'iPad récent, donc je pourrais pas le faire tourner malheureusement, mais je pense pas que
téléphone soit assez costaud. Le premier est sorti peut-être en 2012, je crois, quelque chose comme ça. Oceanhorn 1, je pense qu'il tourne sur à peu près n'importe quelle machine, donc
voilà. Peut-être que je regarderai ça.
Voilà. Bon, c'était juste pour le mentionner. Hein. C'est pas la peine de faire la grande polémique. C'est juste
je
comme
rien
ça.
Dit. Je n'ai rien dit.
Non, mais je parle aux auditeurs. Ils se reconnaîtront.
D'accord.
Le jeu, le deuxième jeu du développeur de Flappy Bird. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. Il y a Ninja Spinky Challenges qui arrive là, qui est à vrai dire déjà disponible. Bon, je l'évoque parce que aussi c'était intéressant, le développeur dont je ne me souviens plus du nom, je suis désolé, il y avait une sorte de petit psychodrame selon le cas. Enfin, il avait déclaré qu'il arrêtait le développement, qu'il retirait l'application du store parce qu'il n'arrivait pas à gérer tout un tas de choses. Enfin, psychologiquement, c'était difficile pour lui. Bon. Voilà, il revient avec un autre jeu qui est tout aussi difficile que Flappy Bird. Si vous voulez tester ça, bah c'est disponible. Ça s'appelle Ninja Spinky Challenges et c'est disponible sur iOS, en tout cas, peut-être même sur Android. Il faudra que je regarde.
A priori, ouais. Dis donc, c'est ça ton mot de la fin ?
Ouais, c'est, du coup, je me rends compte que...
La suite de Flappy Bird.
qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre ? Overwatch à 25 millions de joueurs. Ace Combat 7 est confirmé pour 2017, y compris sur PC.
Fin mars, il y a la sortie de la troisième, la deuxième extension de Dark Souls 3. Voilà, tu vois,
des trucs intéressants. Tiens, disons-nous deux mots de cette troisième extension pour les fans de Dark Souls.
On n'en sait rien. Tu vois, on a juste vu un trailer avec plein de gros monstres qui ont l'air très énervés et qui ont envie de tuer le joueur. Donc, a priori, on n'a pas trop changé d'ambiance par rapport à d'habitude. Donc, on n'a rien vu de particulier à part un trailer. C'est pour ça que je ne l'ai même pas rajouté dans ta liste, parce que ça ne mérite pas d'être mentionné plus que ça. À part qu'on a la date, ce sera le 28 mars. Donc, encore un truc qui sort fin mars.
Du coup, Dark Souls 3, ton bilan maintenant qu'il est passé, très bien, extraordinaire, pas mal, meilleur Dark Souls.
Moi, je reste convaincu que c'est pour l'instant, c'est vraiment mon épisode préféré, et je reste convaincu que c'était que c'est un super épisode, quoi. Vraiment, moi, j'ai adoré. Plus j'y joue, plus j'apprécie, en plus. Donc, mais c'est vrai que pas mal de gens l'avaient critiqué parce que voilà, ça reprenait l'univers du 1, donc il y avait un côté fan service que je peux comprendre énerve certaines personnes, mais j'en parlais pas plus tard qu'hier. C'est les Dark Souls, c'est un style de jeu. Une fois que t'as compris les mécaniques, ça te paraît plus si difficile que ça. Donc forcément, c'est bien qu'ils arrêtent avec Dark Souls 3, parce que sinon, au bout d'un moment, les gens trouveraient ça tellement facile qu'ils se diraient que en fait, ça a jamais été difficile, la série. Mais alors que ça a pas changé, hein, c'est toujours pareil depuis le début. C'est juste que du coup, d'un moment, t'apprends à y jouer, quoi.
D'accord. Très bien. Et ben effectivement, c'est un petit peu la conclusion. C'est une conclusion un petit peu plus qui nous satisfait plus, on va dire, que la suite de Flappy Bird.
Ça me va. Allez, vendu.
Bon, bah merci beaucoup, Benoît, d'avoir été avec nous pour cet épisode, avec cet écart fort intéressant sur la diversité. Ça m'a fait plaisir qu'on puisse l'évoquer, et effectivement, c'était cohérent, même si, bon, politique, machin, il n'empêche, certains, ça va peut-être les déranger, mais moi, ça me paraissait important. Donc, c'est bien qu'on l'ait évoqué. Tu parlais de ta chaîne YouTube. Dis-nous en plus, pour les auditeurs qui voudraient essayer d'en savoir un petit peu plus sur tout ça, sur Dark Souls et tout ce que tu fais.
Sur ma chaîne YouTube, il y a plein de cycles complets du jeu et de toute la série, en fait, hein, parce que du coup, j'ai commencé maintenant il y a plus de 6 ans à faire que ça. Et puis, si les gens ça les intéresse, ils peuvent aller sur ma chaîne YouTube pour découvrir des walkthroughs. L'objectif, j'ai toujours mis ça en avant. Comme toi, tu vois, t'aimes bien ne pas diviser. J'ai toujours voulu faire en sorte que n'importe qui puisse regarder mes vidéos et réussir à finir les jeux. J'ai eu des exemples de gens qui étaient n'importe qui arrivait à finir les jeux en regardant mes vidéos, donc ça fonctionne. Donc voilà, si jamais vous avez envie de découvrir Dark Souls mais que ça vous fait peur, vous pouvez toujours aller sur ma chaîne, sachant que maintenant je me suis vachement diversifié, puisque comme je suis redevenu indé, je propose des découvertes de jeux indé, justement je fais des vidéos sur l'actu, je participe à des podcasts de temps en temps comme toi, donc ça me fait plaisir que tu me laisses 2 secondes pour en parler, mais c'est toi la star, donc.
Mais justement, allez sur sa chaîne YouTube, que vous retrouverez peut-être le plus simple, c'est je mets le lien vers son compte Twitter dans les notes de l'émission. Donc vous allez là-bas.
Il y a tout dedans.
Et voilà, et c'est le compte Twitter, c'est exserve85.
Voilà.
C'est ta date de naissance, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'était pris exserve tout court, donc tant pis.
Très bien, merci beaucoup Benoît. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous retrouverez d'autres émissions sur le site également. Si vous voulez les émissions en anglais, tiens, comme l'émission politique que j'évoquais, c'est sur frenchspin.com. C'est très simple à retenir. Et puis, si vous voulez, par exemple, soutenir l'émission, vous pourriez aller sur votre lecteur de podcast préféré, votre catalogue de podcast préféré, et nous laisser un commentaire. Ça, c'est un truc qui peut nous donner un coup de pouce, parce que ça aide les gens à se faire une idée sur l'émission quand ils cherchent des podcasts sur les jeux vidéo. Vous pourriez faire, par exemple, comme Jim Profit, qui dit toujours de qualité, comme le reste de ses émissions, la qualité avant tout. Patrick est un fin connaisseur du monde du jeu vidéo. Oula, quel compliment. Il y a toujours des invités qui s'y connaissent au moins aussi bien, voire mieux. Encore bravo, donc bravo à toi.
Il parlait déjà de moi alors que je n'étais pas venu. Super, merci.
Et Tit Steak aussi nous dit de l'info, j'y vais bien informé, bien expliqué, pardon. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires. Merci à vous tous de nous écouter. Vous pouvez, comme je le disais, laisser des commentaires aussi sur le site frenchspin.fr et, par exemple, sur Twitter ou Facebook. Je suis toujours là pour répondre et les discussions constructives font toujours extrêmement plaisir. Donc, merci de participer à cette communauté. On vous donne rendez-vous, évidemment, dans 15 jours pour le prochain épisode. Ciao à tous!
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.